toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël, que vous êtes repus et que vous avez bien bu. Pas trop, mais bien. Il se trouve que j'ai passé les fêtes de Noël à Marseille et j'en ai profité pour prendre un verre avec Marie Duo et Margot Frisk, qui sont mes invitées marseillaises du podcast. Je n'ai plus en tête les numéros de leurs interviews, mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de les revoir autour d'un verre. Marie est toujours très heureuse chez Carlini en collaboration et elle est en pleine levée de fonds pour Entre Confrères. Je pense que si vous allez voir sur le site d'Entre Confrères, vous devriez trouver des informations si ça vous intéresse de participer. Et Margot va bien aussi. Elle quitte UGGC pour aller chez PwC parce qu'elle avait envie de plus de corporate et d'une pratique plus internationale. Donc on est toujours dans des avocates épanouies, du changement pour toutes les deux. Figurez-vous que j'étais censée faire une autre interview à Marseille juste avant les fêtes. Et en fait, avec les grèves de train, tout ça, ça ne s'est pas fait. Je suis arrivée à Marseille plus tard que prévu et donc l'interview a sauté. Mais par chance, mon invité sera à Paris le 27, c'est-à-dire demain. Et donc, on va pouvoir faire cette interview et ça ne modifie pas mon programme de diffusion et ça me met en joie. Aujourd'hui, mon invité est maître Mathieu Juglard. Mathieu est avocat au barreau de Paris depuis 2011. Il est également ancien secrétaire de la conférence et il exerce en droit pénal, en droit des contrats et en droit de la propriété industrielle principalement. À son compte, mais plus pour longtemps, puisque le 1er janvier 2020 commence son association avec deux confrères. On a un petit peu parlé de ce changement sur le point de se faire. Donc voilà, et c'est Stéphane Baller, maître Stéphane Baller, qui m'a recommandé d'interviewer Mathieu. C'est une chouette interview, on entend, je sais plus si on entend le chien de Mathieu, Groove ou pas, mais en tout cas, Groove était présent à nos pieds. Il ronflait royalement pendant cette interview. Contrairement donc à Mathieu et moi qui étions en pleine discussion. Je vous remercie pour cette année passée ensemble dans vos oreilles. Ça m'a fait très plaisir de faire ces 51 interviews, puis tout le reste qu'a apporté Fleurs d'avocat. Figurez-vous que je viens de regarder les statistiques des écoutes et on vient de dépasser les 70 000 écoutes tout ensemble. Donc c'est vrai que c'est assez fou, il y a eu une nette progression dans les derniers mois et ça me touche et ça me donne beaucoup d'énergie pour amorcer l'année. En tout cas, la meilleure manière pour vous de soutenir Fleurs d'avocat, c'est d'en parler autour de vous, de partager sur les réseaux sociaux et de vive voix et aussi de laisser un avis sur iTunes ou l'application podcast que vous utilisez. Et d'ailleurs, j'ai eu plein d'avis au mois de décembre et je suis très touchée. Et notamment un avis le 24 décembre de Philou Baba qui nous dit « Un podcast très intéressant que j'ai découvert tardivement pendant mes longues marches de grève en allant au cabinet. Avocat depuis 9 ans dans le même cabinet en droit des sociétés, des affaires, je me suis beaucoup retrouvée dans les anciens avocats, tant ceux qui ont persisté dans la profession que ceux qui se sont reconvertis. En effet, on passe par beaucoup d'émotions quand l'on exerce cette profession et c'est pas les envies de quitter la robe qui manquent. Toutefois, en ce qui me concerne, j'ai décidé de tracer ma route dans cette direction. Au plaisir d'être interviewée par vous un jour peut-être. Joyeuses fêtes Philippe. Merci beaucoup Philippe pour cet avis. Peut-être me serez-vous recommandé. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour vos avis. Je vous laisse avec Mathieu et moi pour cette discussion et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathieu Juglard.
Bonjour.
Merci d'être mon invité sur Fleurs d'avocat.
Avec plaisir.
Alors Mathieu, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat.
C'est une longue histoire qui doit remonter à peu près à l'adolescence. Puisque c'était une adolescence assez riche en termes d'affaires judiciaires assez majeures, je pense évidemment à toutes les affaires criminelles de l'époque, les affaires de la Josacine empoisonnée, les affaires Papon, évidemment l'affaire Patrick Diels qui était rejugée après un arrêt de révision de la Cour de cassation, et aussi les affaires politico-financières qui rythmaient la vie politique et médiatique, et évidemment au premier rang desquelles se trouvait l'affaire Elf Aquitaine.
Et vous, ça vous passionnait ?
Et moi, ça me passionnait, j'écoutais beaucoup tous ces comptes rendus à la radio, je les lisais aussi dans la presse, puisqu'on arrivait avec la presse internet. Donc il y avait une véritable actualité qui était très intéressante à cette époque, et que je dévorais avec un certain plaisir.
Qu'est-ce que... Donc vous le dévoriez et vous vous disiez « j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien m'occuper de ça ».
Et je me disais, en entendant ceux qui allaient devenir mes confrères parler avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup d'éloquence même, et également avec beaucoup de passion, je me disais que c'était un métier qui semblait me plaire. Donc j'ai voulu, assez tôt, c'est-à-dire vers mes 14-15 ans, entreprendre des études de droit.
Mais comment se sont passées ces études de droit ?
Oh, très bien, c'était des études tout à fait classiques, donc on commence par 4 ans de droit à l'université, et évidemment, en raison de la nécessité, on est obligé de faire quelques adaptations, notamment le tiers-temps, l'ordinateur pour les examens, qui n'était pas le mien, et puis la transcription, parce qu'on a encore un numérique assez balbutiant à l'époque, donc la transcription de certains ouvrages et des fichiers d'ETD. C'est donc la première partie de mes études. Après ma maîtrise, c'était la dernière année où ça s'appelait la maîtrise, je suis parti un an en Angleterre, où j'ai eu à connaître les études sur place, qui sont très différentes et donc très enrichissantes, puisque on est sur quelque chose qui sollicite davantage l'étudiant dans sa réflexion, dans son mode de pensée. Et puis, retour en France, Master 2, et puis enfin, des stages, l'école du barreau, et puis des premières collaborations, la conférence du
stage. Alors attendez, parce que vous allez trop vite, on va parcourir tout ça dans le détail. C'est bien pour ça que je ne pouvais pas vous interviewer par téléphone mardi. Quand vous avez eu un empêchement. Alors déjà, vous avez évoqué votre cécité.
Oui.
Et donc, les aménagements que ça a aménagé au niveau de la fac. Est-ce que... c'est peut-être une question idiote, mais est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit que ce serait compliqué d'être avocat quand on est aveugle ?
Alors, non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je voyais le métier d'avocat comme un métier très oral. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, mais pour l'étudiant que j'étais, c'est-à-dire avec la vision du métier d'avocat qui est celle d'un étudiant et d'un stagiaire, on étudiait des choses qui étaient relativement accessibles, puisque ce sont des dossiers écrits ou informatisés qui ne sont pas encore très épais, parce qu'on ne donne pas des très gros dossiers à des stagiaires. Et on s'appuie sur des textes relativement accessibles. Le Code civil se lit quand même, se lisait assez facilement. Depuis la réforme, hélas, on a affaire à un langage beaucoup plus technocratique que littéraire. Mais ça, c'est une question d'esprit. Donc, pour en revenir à cette facilité ou difficulté d'accès, non, je ne pensais pas ça. Je dirais que une fois que j'ai commencé mon activité professionnelle, là, effectivement, se sont posées des difficultés d'ordre purement pratique.
Et avant d'arriver là, vous avez mentionné des stages.
Oui.
Comment se sont passés ces stages ? Comment vous les avez trouvés ?
Les premiers stages, c'était des relations, et puis ensuite, c'était sur les forums de recrutement. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé un premier stage chez Clifford Chance, à la fin de mes études, sur un forum de recrutement.
Et est-ce que votre cécité a posé problème ?
Non. Non, ça a été même quelque chose qui a été, surtout dans les cabinets internationaux, très facilement accepté. Puisqu'on avait des dossiers tout à fait numérisé, que l'environnement était lui-même très informatisé. Donc il n'y avait aucune difficulté de ce point de vue-là. Je dirais que dans des plus petits cabinets, ça peut poser des difficultés.
Ouais.
Parce que on n'est pas avec les mêmes infrastructures de travail. Il faut bien comprendre, et je l'ai sans doute compris un peu tard, mais il faut bien comprendre que quand on arrive et qu'on est aveugle ou déficient visuel, de manière générale, il faut qu'on ait à ses côtés, ou du moins facilement à disposition, quelqu'un qui puisse vous faire un travail de lecture rapide, s'entend. Lire un dossier, c'est tout à fait possible. Le tout, c'est de savoir combien de temps ça prend. Et le problème, c'est que quand vous n'y voyez pas, que vous n'avez que 40 caractères sous les doigts à la fois, ça prend beaucoup plus de temps que quand vous pouvez parcourir des pages et des pages de conclusions.
Et comment vous vous êtes organisé, du coup, dans ce contexte ?
Eh bien...
Parce que là, déjà, ne serait-ce qu'en tant qu'étudiant et au niveau de stagiaire, parce que là, maintenant, vous avez votre stagiaire et je suppose que c'est une des personnes qui vous aide dans ce travail de lecture, etc. Mais à ce stade-là, il n'y a pas encore... vous aviez potentiellement pas encore
Alors,
ça.
En tant que stagiaire, j'avais toujours les possibilités d'avoir accès à la secrétaire du cabinet qui me scannait les dossiers. Donc, et un stagiaire, vous le payez tout de même, vous ne payez pas à l'heure. Donc, vous pouvez tout à fait le laisser travailler à une certaine vitesse. Ça ne pose pas des difficultés majeures. Et encore une fois, dans des gros cabinets, vous avez du monde qui peut vous faire tout un travail de remise en page, de relecture, de préparation du dossier, donc vous pouvez vous concentrer sur ce que vous avez à lire vraiment. Quand vous devenez collaborateur, c'est quelque chose qu'il faut savoir dire aussi, c'est pas forcément facile, et savoir dire on ira moins vite que les autres, c'est quelque chose qu'on ne vous apprend pas. Et c'est assez dommage parce que on vous explique à la fac que vous avez le tiers-temps, que tout va bien, que vous pouvez vous débrouiller, et qu'on est prêt à faire des concessions. Oui, mais voilà, dans un cabinet d'avocat, les délais, ils sont pas augmentés par le tiers-temps. Le délai d'appel, il reste de 10 jours. Donc, il faut qu'en 10 jours, vous ayez pris le temps d'analyser votre dossier et de prendre la décision ou non de faire appel. Voilà. Pour l'instant, moi, je pense que c'est une question qui se pose encore assez mal pour des jeunes avocats déficients visuels ou handicapés en général. C'est-à-dire que quand on sort de la fac, qu'on rentre dans la profession, on est en milieu ordinaire et il n'y a pas beaucoup de concessions. Il y a moins de concessions qu'à la fac.
Et vous ? Est-ce que vous avez appris sur le tas à demander, à dire ?
Oui, totalement sur le tas. Alors, j'avais des patrons tout à fait conciliants, qui comprenaient, mais qui m'avaient dit « Mais si vous ne me le dites pas, je ne peux pas le deviner. » Et c'est vrai. Et c'est difficile de se rendre compte qu'il n'y a pas le tiers-temps. Et quand on vous donne, moi, je me souviendrai toujours de ma première data room, on vous met dans une data room, on vous demande d'analyser un dossier... qui est quand même assez lourd, et de remplir des cases à partir de documents qui sont numérisés, mais qui sont numérisés en tant qu'image, c'est-à-dire qu'il faut que vous demandiez à votre ordinateur de les reconnaître en tant que texte, pour le coup, vous allez avoir beaucoup plus de mal, parce que le temps que l'ordinateur fasse la reconnaissance de caractère, le confrère voyant, le jeune collaborateur voyant, lui, il a parcouru son document et éventuellement il a tout noté. Quand vous devez lire un contrat à toute vitesse ou chercher telle clause dans un contrat, vous n'avez pas forcément la possibilité d'aller aussi vite qu'un voyant. Vous pouvez mettre en pause 2 minutes ?
Bien sûr. C'est le vôtre ?
Le chien ?
Oui. Comment ?
Il va aller se mettre dans son coin.
Mais oui, mais il peut même rester là avec nous.
Ah, il ronfle. Oui, t'es un beau chien. Oui, t'es un gentil chien. Voilà, désolé.
Et vous disiez qu'un collaborateur, un autre stagiaire, lui, pendant que l'ordinateur transcrit en texte ce qui n'est qu'une image, ben lui, tout de suite, il le voit, il fait ce travail plus vite.
Oui.
Vous, est-ce que vous avez adapté votre pratique pour justement ne pas en pâtir de ce, entre guillemets, désavantage concurrentiel?
Mais c'est un désavantage concurrentiel et c'est pour ça que je me suis tourné vers une pratique beaucoup plus orale de la profession, puisque quand on est à l'oral, on est au même niveau. À l'audience, tout le monde va à la même vitesse. Alors, ça implique un temps de préparation d'audience, évidemment, et une vraie connaissance de son dossier avant d'aller à l'audience. Mais à l'audience, tout le monde va à la même vitesse. Tout le monde. Puisque vous allez à la vitesse du président. Et si jamais le président passe un peu vite, c'est à vous, en tant qu'avocat, de lui dire « Non mais attendez, on se calme un peu, il y a certains éléments là que vous avez peut-être oubliés. » Donc là, vous avez le temps de préparation d'audience que vous devez prendre. Et pour le coup, il va être, je pense pour moi, nécessairement plus long que pour mes confrères. D'autant que je pense qu'un dossier se gagne dans les détails. Je ne pense pas qu'il se gagne simplement en ayant lu un PV de synthèse. Donc, gagner un dossier dans les détails, ça implique de bien le connaître. Mais quand vous le connaissez bien, vous êtes à égalité avec le président, le ministère public, éventuellement l'adversaire.
Est-ce que ça a été un... Est-ce qu'il y a eu du dépit ou pas là-dedans? Est-ce qu'il y a des matières que vous auriez aimé faire, que vous aviez peut-être apprécié à la fac ou que vous aviez pu toucher dans votre expérience?
Non. Je fais ce que j'aime. C'est-à-dire que je fais du pénal, je fais de la propriété industrielle, je fais du droit des contrats, voilà. Je fais tout ça et j'aime. Donc non, j'ai pas de dépit dans mon activité. Au contraire, non, je me sens pour le coup très épanoui.
Sinon, vous ne seriez pas là.
Sinon, je ne serais pas là, effectivement.
Alors, on a sauté plein d'étapes, mais oui, c'est intéressant. Donc, vous faites ces études de droit, ça se passe bien, en sachant qu'il y a des difficultés, mais vous les surmontez, vous ne vous dites pas que c'est impossible de devenir avocat dans votre situation. Et vous passez le barreau, enfin, en tout cas, le CRFPA.
Tout à fait.
Pareil, là, PPI, stage, comment ça s'est passé ces stages? C'est là que vous êtes allé chez Clifford Chance?
Alors non, j'étais chez Clifford Chance avant de passer le CRFPA. C'était un stage un peu en année de césure, stage de 2 mois qui devient au bout de 15 jours un stage de 4 mois et au bout de 4 mois un stage de 7 mois. Et on aurait bien aimé, mais on aurait bien voulu continuer, mais il n'y avait plus de crédit de stage à la fac. Donc, nous sommes quittés tellement bons amis que j'y suis revenu. Et nous nous sommes à nouveau quittés tellement bons amis que quelquefois, j'ai le plaisir de repasser chez Clifford pour des dossiers ou pour autre chose. Donc nous sommes restés en excellents termes. Non, je dirais qu'après mon CRFPA, ça a été le parcours de l'élève avocat bête et méchant, avec un premier semestre de cours et de stages en alternance chez Alain Ouvry. Alors on est en 2009, donc c'est une époque un peu sinistrée au point de vue droit des affaires, hein, le premier semestre 2009. Et puis je pars ensuite 6 mois en Amérique latine, en Colombie.
Ah, comment c'était la Colombie?
C'était un pays extraordinaire, très intéressant. C'est un pays d'abord qui a une véritable histoire, une véritable culture. Et on compte tout de même un prix Nobel de littérature en la personne de Garcia Marquez, ce qui n'est pas donné à tous les pays du monde. Véritable histoire, véritable culture, un droit qui est très proche du droit civil, et puis qui est marqué par des difficultés politiques tout de même majeures. C'est-à-dire que c'est un pays qui sait ce que c'est que le terrorisme, c'est un pays qui sait ce que c'est que le trafic de stupes, et qui, malgré tout, est demeuré une démocratie, certainement perfectible comme toute démocratie, mais une démocratie tout de même depuis son indépendance.
Et c'est pour tout ça que vous vouliez partir en Colombie?
C'était pas que, parce que je connaissais également des Colombiens que j'avais vus durant mon enfance, puisque mon père travaillait avec ce pays, il s'occupait de café, et donc on avait pu rencontrer pas mal de gens qui étaient des gens brillantissimes, qui parlaient parfaitement aussi bien l'espagnol que le français et l'anglais, espagnol étant pour la vie quotidienne, le français pour la culture et l'anglais pour les affaires. Donc c'est pour ça que j'étais parti dans ce pays, et puis également pour apprendre bien maîtriser l'espagnol. Et je me suis retrouvé à faire du droit des affaires franco-colombien, c'est-à-dire à importer en Colombie des concepts de droit français, et je pense notamment aux sociétés par action simplifiée, où là c'était une nouveauté en Colombie, puisqu'elle avait été créée un an avant, alors qu'en France, on avait des SAS depuis... depuis 1994, si ma mémoire ne me fait pas défaut, donc depuis 15 ans. Donc on avait tout de même une pratique judiciaire et même une pratique de la rédaction des statuts qui était extrêmement poussée.
Et vous étiez déjà assez à l'aise, parce que là on est en stade de PPI, vous n'êtes pas encore... Vous étiez déjà assez à l'aise en droit des affaires et sur, en l'occurrence, la SAS pour faire ça, pour aller en Colombie et importer le concept de la SAS.
Importer, c'est un... Importer sa pratique, j'étais allé partir avec une batterie de manuel. C'est vrai que des codes de connexion, des codes de connexion à des sites, français, ce qui me permettait d'avoir accès à beaucoup de formulaires, ce qui permettait de savoir un petit peu toutes les clauses qu'on mettait. Je dis pas que j'étais un immense juriste de droit des affaires, mais enfin, je commençais à pas mal me débrouiller puisque j'avais déjà acquis un peu d'expérience dans divers cabinets. Donc, ça me donnait un certain confort. Je dirais pas que j'étais, encore une fois, le dieu du droit des sociétés. Je ne le suis certainement pas. Je ne pense que, d'ailleurs, je ne le serai jamais. Mais ça me donnait, disons, une première approche qui était un élément assez utile à mon patron de l'époque, puisqu'il en a vendu des SAS.
Voilà. Et donc, au bout de ces 6 mois en Colombie...
Et donc, je rentre en France et je vais chez Salance, qui est devenu Dentons depuis. Ouais. Salance, à Paris, où je fais de la propriété intellectuelle et où ça se passe plutôt bien, même si, malheureusement, on est à l'époque en 2010, donc on se relève un peu de la crise de 2008. Et la propriété intellectuelle n'est pas forcément le point de concentration des clients. Les clients sont davantage sur de la restructuration que de la valorisation de portefeuille de marque ou du droit d'auteur. Je me cherche à ce moment-là une collaboration. C'était pas facile. En propriété intellectuelle, on ne trouve pas. Et puis une collaboration... ça implique que vous embauchez quelqu'un pour une durée indéterminée. Donc, quand vous avez face à vous un jeune utile à mon CV, vous avez tout de même quelques difficultés lorsqu'il s'agit d'un handicapé, parce que vous vous dites, effectivement, comment ça marche ? Comment je vais faire ? Et j'ai trouvé une collaboration chez Ernst & Young, où là j'ai fait non seulement de la propriété intellectuelle mais également du droit de la distribution, c'est-à-dire que j'ai élargi mon champ de compétences au droit des contrats et de la distribution, à faire des matières assez techniques.
Je suis très impressionnée par le fait que vous ayez fait des choses très différentes. Du droit des affaires et de la SAS, puis ensuite de la propriété intellectuelle.
Alors la propriété intellectuelle, ça correspondait à mon master.
À votre parcours, raison de plus pour... je le souligne parce que je suis impressionnée. Et sachant qu'en plus, c'est-à-dire que vous avez cette potentielle difficulté de changer de domaine d'intervention, même si c'est ce qu'on a étudié en master, il y a quand même toujours un gap entre le master et le... Et sachant que vous partez avec cette difficulté en plus, qui est celle de votre cécité, et à la limite, pas tellement de votre cécité, c'est une difficulté pour vous en plus, bien évidemment, mais c'est aussi une difficulté d'intégration en plus, parce que comme vous dites, il faut aussi, je suppose, faire un gros travail de pédagogie avec les personnes avec qui vous travaillez.
Alors, il y a ce travail de pédagogie, oui, mais vous savez, je crois fondamentalement que parce que je le crois, parce que je l'ai appris auprès de mes maîtres. D'abord, on est spécialiste de ce qu'on fait et non de ce qu'on étudie. Et ensuite, pour être un bon spécialiste, il faut être un bon généraliste. Or, il y a aujourd'hui, dans les études qui sont proposées aux étudiants en droit, et même dans ce qu'on leur demande dans beaucoup de cabinets, une ultra-spécialisation qui fait que, à part ce qu'ils ont étudié, ils ne connaissent plus rien. Or, quand vous arrivez devant un client, vous avez quand même du mal à lui dire « je suis désolé, je ne sais pas ». Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire à votre client « je ne sais pas ». Vous pouvez dire à votre client, en revanche, il faut chercher. Vous pouvez vous entourer des compétences nécessaires, mais vous devez avoir, à mon sens, les réflexes, au moins pour vous dire que vous allez chercher telle personne pour vous aider. Si vous ne les avez pas, vous allez, à mon avis, dans une ultra-spécialisation qui, au fond, n'est pas bonne pour le client. Alors, quant au travail de pédagogie, oui, c'est un travail qu'il faut faire, qui est difficile, parce que les gens pensent que l'accessibilité, c'est tout ou rien. Or, c'est pas vrai. L'accessibilité d'un document, c'est quelque chose de compliqué. Un document peut vous paraître tout à fait accessible parce qu'il est lisible, mais pour peu que les balises informatiques n'y soient pas, dans ce cas-là, on part sur quelque chose de très compliqué à lire, même si c'est joliment présenté. Parce que les logiciels aujourd'hui font que bah, vous avez une présentation en braille qui n'est pas la même qu'à l'écran. Donc, il y a cette étape-là qu'il faut préciser. Également le fait que ça peut vous paraître idiot, mais toutes les écritures manuscrites ne sont pas transcrivables à l'ordinateur automatiquement. Donc il faut retranscrire à la main. Également, un document de mauvaise qualité, mal imprimé, bah, il va être forcément mal lu par l'ordinateur. Donc tous ces paramètres-là font que aujourd'hui, on est sur quelque chose qu'il faut prendre le temps d'expliquer et qu'on arrive à expliquer finalement.
Et alors vous dites que quand vous avez cherché une collaboration, ben, ça a été dur à deux égards. Le premier parce que c'était une reprise douce de l'économie et le fait que la propriété intellectuelle n'était pas ce qui était recherché en premier. Et la deuxième, c'était votre cécité. Est-ce que vous avez... Est-ce que ça a été dur pour vous peut-être la difficulté de trouver une collaboration mais pas, je ne vous parle pas de la difficulté matérielle, je vous parle là d'une difficulté plus émotionnelle.
Psychologique ?
Ouais.
Oh, ça ne fait pas plaisir, hein, c'est sûr, mais je n'ai pas non plus mis énormément de temps, puisque j'ai eu mon CAPA en septembre-octobre, et même si j'avais commencé à chercher, je dirais que c'est en novembre, fin novembre, que je suis rentré chez Clifford Chance. Donc ça n'a pas non plus été très rapide. Mais c'est vrai que je voyais. Chez Ernst & Young. Donc c'était en novembre que je suis rentré. C'était fin novembre que je suis rentré chez Ernst & Young. Donc c'est vrai que c'était pas forcément facile parce que je voyais pas mal de copains qui commençaient dans des cabinets au 1er octobre, etc. Que je voyais également. Les réponses, les refus s'accumulaient. Donc, j'ai quand même eu certaines appréhensions. Mais je pense, comme pas mal de jeunes diplômés, hein, et je suis rentré chez Ernst & Young et j'y suis resté 3 ans et demi.
Et comment s'est passée cette première collaboration ?
Ma foi, plutôt bien. C'était intéressant. Je vous dirais qu'au bout de 3 ans et demi, vous avez envie de passer un peu à autre chose dans ce genre de cabinet. Donc, je suis parti pour passer le concours de la conférence.
Alors, vous aviez envie, puisque au bout de 3 ans et demi, quand même, 3 ans et demi, c'est long, vous aviez envie de passer à autre chose par rapport à la matière, par rapport à la forme d'exercice, le côté grosse structure.
Par rapport à la pratique, par rapport à la matière aussi. Disons que j'aimais beaucoup ce que je faisais. Mais la structure est quand même pesante dans ce genre de cabinet. Il n'est pas toujours facile de savoir qui contacter, comment se positionner par rapport à la masse. Et donc, je me suis dit... En plus, j'avais très envie de passer le concours de la conférence depuis pas mal d'années. Donc, je me suis dit que c'était le moment où j'avais. Et c'est donc pour ça que je me suis lancé dans ce concours.
Et alors ?
Eh bien, je l'ai eu.
Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus.
Ah, mais le processus, ça...
Comment vous vous êtes... Enfin, voilà, est-ce que vous vous êtes préparé au concours de la conférence ?
Alors, je m'y étais préparé, d'abord parce que je suivais depuis un certain temps tout ce qui était concours d'éloquence, que c'était une institution que je connaissais un petit peu, évidemment, comme toute personne qui s'intéresse à cette matière. Disons que l'envie me prenait de plus en plus. Et puis un jour, j'ai vu un sujet qui me plaisait vraiment bien.
C'était quoi ce sujet ?
C'était « Faut-il voyager au bout de la nuit ?» qui était donc proposé une séance où François Gibeau, biographe de Céline, et également avocat, ancien secrétaire de la conférence, était invité. Et j'ai donc dit qu'à ce moment-là, je tentais le concours de la conférence.
Et qu'est-ce qui vous a touché dans ce sujet ?
D'abord, cette référence à Céline, qui m'obligeait à ne pas en parler. Ensuite, cette idée de voyage au bout de la nuit, côté très mystérieux, très suggestif du titre, qui m'a poussé à vouloir le présenter, faire un discours sur ce sujet.
Et qu'est-ce que vous avez raconté ?
Ah, alors là, si je devais vous refaire tout le discours, ça prendrait un certain temps.
Non, ne me refaites pas tout le discours, qu'est-ce que vous avez voulu parler ?
C'était un discours sur... C'était totalement métaphorisé. Et mon idée maîtresse étant qu'au bout de la nuit... Donc c'était une espèce de méditation plus qu'un discours, mais au bout de la nuit se trouvait cette puissance créatrice qui nous inspire tous. Et c'est donc là que j'ai voulu emmener les secrétaires de la conférence de l'époque, et je crois les y avoir emmenés puisqu'ils m'ont élu au premier tour. Puis vient le deuxième tour, qui lui est un tour de 5 heures, donc là il n'y a pas de filet de sécurité, hein, personne pour vous dire si vous faites un bon discours ou pas, vous y allez. Et là, je me retrouve avec un sujet. Paris est-il une fête à l'affirmative ? Paris est-il une fête à l'affirmative ? Un sujet pas facile, surtout à préparer en 5 heures. Bon, ça s'est manifestement bien passé, même si j'étais assez déçu de ce deuxième tour, à titre personnel, parce que je pense que je n'ai pas fait un bon discours ce jour-là. Et le troisième tour, 5 jours, le corps est-il le tombeau de l'esprit ? À la négative, et j'étais le dernier candidat à passer. Et bon, sujet très philosophique pour le coup. Très philosophique et qui me fait conclure sur les mots de Tixier-Vignancourt, les derniers mots de Tixier-Vignancourt pour le général Salan, où il dit... que se réalise au bout de la nuit la fragile et difficile unité des vivants. J'avais simplement remplacé au bout de la nuit, qui faisait trop référence à mon premier tour, par à cette clarté sublime.
Mais c'est intéressant parce que, alors je sais, c'est très extérieur, mais qu'est-ce que vous voyez ?
Alors, peu de choses, la lumière, les ombres, aucun détail. Et le clair et l'obscurité, mais aucun détail vraiment perceptible, enfin visuellement perceptible.
Vous diriez que vous êtes dans une sorte de nuit avec des étoiles ?
Si je savais ce que ça... Non, alors non, c'est pas une nuit avec lune. Non, c'est une... Non, je dirais que je fais bien la différence entre le jour et la nuit, ne serait-ce que visuellement, mais c'est une perception lumineuse. Et une perception des formes très très limitée. Ce qui ne m'empêche pas de me diriger avec mon chien ou avec une canne. Mais ce qui me pose évidemment des difficultés de lecture.
Non, mais pour en revenir à la nuit, est-ce que c'était une question, je me demandais si vous étiez dans un... si votre univers est plutôt sombre, votre univers visuel.
Oui, l'univers visuel est sans doute assez sombre, tout à fait, même si j'allume la lumière.
Ouais, et donc ce sujet, il vous a forcément aussi parlé
Pense que, vous savez, quand vous voyez un sujet, c'est le sujet qui vous appelle, à mon avis, hein, pour tous les secrétaires. Mmh. Vous ne partez pas sur ce concours sans avoir fait une certaine réflexion sur vous-même. Mmh. Donc, je suis plutôt, d'avis que... Et j'ai pris un certain temps avant d'y aller. C'est aussi pour ça, c'est que même si l'envie ne me manquait pas, il y avait des sujets qui ne me portaient pas forcément. Et ce sujet-là, évidemment, qui m'a poussé, il m'a poussé à passer le concours.
Et quand même, pour le coup, le troisième tour, le corps est-il le tombeau de l'esprit ? Que vous avez clos avec cette citation qui est allée aussi au bout de la nuit, mais pour le coup, ça c'est un tirage au sort.
Oui, c'est un tirage au sort. Le deuxième et le troisième tour sont des tirages au sort.
Et est-ce que, je suis désolée, je vous pose des questions très intimes, mais est-ce que d'une certaine manière, votre cécité vous a-t-elle jamais fait évoquer une sorte de tombeau?
Non, jamais. Jamais.
De par le caractère sombre, hein, bien évidemment.
De par le caractère sombre, non. Même si je me suis un peu moqué de moi-même et de ma cécité au début de mon discours de troisième tour. Mmh. Mais non, ça ne m'a jamais évoqué une sorte de tombeau. Ou même quelque chose de. Une prison ou quelque chose de sombre. Non. C'est un état des choses. Je vis avec. Si ça s'améliore, ma foi, tant mieux, on verra bien. Mais pour l'instant, je reste sur quelque chose de quotidien, c'est-à-dire que j'y pense même pas.
Donc du coup, ce troisième sujet vous a pas, pour le coup, n'a pas eu cette résonance personnelle que le premier a pu avoir ?
Non, pas du tout. C'est vrai que le premier a eu une résonance personnelle aussi de par mes lectures, hein, parce que Céline... Évidemment, le bout de la nuit, ça vous pose question.
Mais vous faites une transition parfaite. J'allais vous demander, parce que voilà, vous avez tout de suite, bien évidemment, sauté sur Céline, mais quand vous avez parlé de la Colombie, vous avez parlé de Gabriel Garcia Marquez et des 100 ans de solitude. Enfin, vous n'avez pas évoqué les 100 ans de solitude, mais de manière indirecte en parlant du prix Nobel. Ça m'amène à vous demander votre rapport à la littérature et comment ça vous porte.
Alors là, vous interrogez un septième secrétaire de la conférence, c'est-à-dire normalement le lettré de la bande. Je crois que la littérature est quelque chose d'essentiel pour un avocat, parce que c'est au fond la meilleure étude psychologique, je dirais même anthropologique, qui soit. On a tellement écrit sur tant de personnages de romans, on s'est tellement penché sur leurs sentiments, leurs actions, que vous apprenez beaucoup en lisant la bonne littérature, et vous apprenez même tellement que quelquefois quand vous lisez des dossiers, vous avez l'impression de lire, pour certains, un roman de Mauriac, pour d'autres, un roman de Simenon. Quelquefois une œuvre majeure d'une antiquité grecque. Le procès a toujours une résonance tragédienne et tragique. Le rapport à la littérature, de manière générale, il est assez ambivalent, parce que j'aimais bien lire quand j'étais jeune. Et d'un autre côté, j'avais aussi toutes les préventions qu'ont les jeunes et les adolescents face aux classiques, puisque je me suis quelquefois retrouvé avec des bouquins de Camus qui me tombaient des mains.
Manifestement, vous êtes quand même un amateur de classiques.
Ah oui, oui, parce que j'ai été aussi, c'était aussi une partie de mon éducation. Mais je me suis plongé, oui, dans certains bons bouquins. Il y en a certains que j'ai vraiment pas pu terminer. C'est-à-dire que moi, La Peste de Camus, j'ai vraiment dû lâcher. La Peste à 14 ans, c'est compliqué.
Oui, je suis d'accord avec vous. Même un peu plus tard, je crois que je l'ai commencé à 20 ans, ouais. Et ça m'a pas... C'est... Voilà. C'est amusant ce que vous dites sur la littérature, parce que, enfin, c'est pas amusant, mais moi, on me dit souvent que je suis très empathique. Et je pense que j'ai appris l'empathie d'abord par les romans, parce que j'ai beaucoup, je lisais beaucoup, je lis encore beaucoup, mais moins que quand j'étais adolescente quand même, et toute jeune adulte. Et je pense que j'ai été empathique avec les personnages de romans bien avant d'être empathique avec les êtres humains.
C'est très possible, parce que vous allez toujours vous identifier à un personnage, quel que soit le descriptif qui vous en est fait. Peut-être allez-vous le rejeter, peut-être allez-vous l'aimer, mais le personnage est présenté de telle façon que vous allez éprouver des sentiments pour lui. Alors que l'être humain, vous pouvez le croiser dans la rue sans lui dire bonjour. Le personnage de roman, il vous est imposé. Vous pouvez toujours lâcher le bouquin.
Vous le choisissez quand même. Vous faites cet acte de curiosité tout de suite avec le roman que vous ne faites pas dans de grands cas. Bref, et vous avez tout de suite fait le lien entre littérature et l'avocature et l'exercice de la profession d'avocat. Est-ce que vous avez un dossier qui serait un dossier de roman?
Ah oui, bien sûr. Et plus d'un. Oui, je pense à un dossier qui a été un de mes premiers dossiers de conférence, d'un homme poursuivi pour trafic de stupéfiants et qui avait fait cela pour financer une double vie, et une vraie double vie, et c'était une double vie de roman, avec chaque femme se croyant la seule. C'était un vrai dossier de roman, celui-là. C'était un vrai dossier de roman, mais qui s'est terminé aux assises. Un autre dossier de roman, vous savez, chaque dossier pourrait être presque un roman,
oui, puisque chaque dossier
est une image, est une histoire. Mais un autre dossier, je dirais presque un dossier tragique, c'était un dossier de viol où l'accusé a fini par être acquitté. J'étais en défense en première instance, mais malheureusement, je n'avais pas obtenu l'acquittement, et derrière, il a été acquitté. Et je l'ai revu d'ailleurs. Et dossier tragique parce que c'était vraiment un dossier bâti sur un mensonge dès le départ, mais un mensonge auquel beaucoup de monde a cru. Donc dossier très très dur de ce point de vue-là. Un autre dossier qui pourrait être un dossier, un mauvais roman, un roman très triste et qui se termine très mal. C'était un dossier de départ en Syrie, en tentative de départ en 2014, qui a, Dieu merci, échoué pour celui qui est devenu mon client. Et ce qui était terrible dans ce dossier, c'était de voir à quel point on s'acharnait à essayer de démontrer que mon client était ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire quelqu'un en contact avec des fous furieux perpétuellement. Alors que certes, il avait des convictions radicales de post-adolescent. Certes, il avait tenté de partir, mais on n'avait pas besoin de faire tout cela. Et comme on n'arrivait pas à démontrer ce qu'il n'était pas en réalité, eh bien, on l'a laissé gentiment pourrir en détention provisoire pendant 4 ans. Je dois dire que... Et encore, le parquet n'était même pas content de la peine prononcée, qui était de 7 ans, et avait fait appel. Et la cour d'appel, sagement, a considéré que ce n'était qu'une peine de 7 ans qui était nécessaire. Donc, je trouve que voilà, c'était un dossier, malheureusement, de mauvais roman, de roman triste.
J'allais vous demander de me parler de votre année de conférence, mais peut-être qu'avant, vous me faites penser là en parlant de votre client. J'ai envie de vous demander la réaction des clients face à votre cécité.
Eh bien, c'est une réaction qui, moi, m'a mis tout de suite à l'aise. Parce que mes premiers clients, je leur posais la question, maintenant je ne la leur pose plus. Disons que la réaction était assez compliquée au départ, du moins à mon sentiment, parce que j'étais commis d'office, souvent. Quand j'étais secrétaire de la conférence. Donc, commis d'office, c'est l'avocat que personne ne connaît, hein, surtout pas le client. Le client ne vous a pas choisi. Et vous allez devoir instaurer ce lien de confiance. Et quelque part, c'est ce qui m'a permis de surmonter totalement le handicap. Puisque vous devez arriver devant cette personne que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaît pas, et qui forcément va avoir une certaine prévention contre vous. Vous devez arriver... et que la confiance s'instaure.
Et comment vous avez fait ?
Eh bien, c'est en arrivant et en expliquant. Ah, mon secret, c'est de parler au client et de lui expliquer où il en est, de lui expliquer sa situation.
Un instant, si vous voulez.
Non,
c'est bon.
Lui expliquer sa situation et de lui conseiller une stratégie de défense. Et à ce moment-là, le client se dit que, bah, aveugle ou pas, il est défendu. Et sans doute, il est plutôt bien, puisqu'il me plaît.
Oui.
Pour certains. Bah, pas pour tous, évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais pour certains, il me garde.
Donc en fait, vous, ça a été vraiment la confiance par l'expertise.
C'est la confiance
arriver
par l'expertise
suite,
et la parole. Vous devez arriver et énoncer quelque chose d'assez clair à votre client. Il ne faut pas oublier que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et quand vous êtes en déferment, c'est-à-dire quand vous allez assister quelqu'un qui va être présenté pour la première fois à son juge, après sa garde à vue, vous devez avoir l'honnêteté de dire à votre client ce que vous pensez du dossier. C'est-à-dire, pour lui, est-ce qu'il sort ou pas ? Voilà. C'est ça que vous devez pouvoir dire à votre client. Donc, moi, c'est mon secret. C'est-à-dire dire au client, je vous conseille de répondre aux questions, ou je vous conseille de garder le silence, ou bien, ben, monsieur, il va falloir qu'on prépare vraiment votre défense. Donc, pour l'instant, taisez-vous. Taisez-vous parce que vous pourriez dire quelque chose que nous allons traiter derrière. Donc, gardez le silence. Et puis, on va se revoir. Par contre, je ne vous dis pas qu'on se reverra quand vous serez si vous êtes dehors. Je pense qu'on se reverra au parloir. Hein. Voilà, c'est ça que vous dites au client. Et c'est dur. C'est dur à dire. Mais je crois, moi c'est ma conception de cette profession, que si vous mentez au client, vous êtes mort. C'est pas la peine. Vous êtes capable de mentir au client, ça veut dire que vous n'êtes pas capable d'assumer la vérité du dossier.
Et cette année de conférence, alors ? Pour boucler la boucle.
Ah, c'est une année passionnante, la conférence. C'est une année extraordinaire parce que d'abord c'est une année que nous avons vraiment vécue à 12. Promotion très soudée. Et ça a été une année qui a été marquée par l'histoire que la France a traversée à ce moment-là. C'est-à-dire que on s'attend, en étant élu, à faire de la défense pénale d'urgence, donc de défendre des criminels, je dirais de droit commun. Et puis, eh bien, on a pris nos fonctions le 1er janvier, et le 7 janvier, catastrophe, Charlie Hebdo. 9 janvier, recatastrophe, hyper cachère. Donc déjà, on se dit, mais en fait, c'est peut-être ces gens-là que nous allons devoir défendre. Bon. Et puis, on sent la pression monter, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas ne pas réagir. Donc la pression monte, elle devient même lourde. D'autant que en juillet, il y a des tentatives d'attentats contre des cibles militaires. Avant ça, en avril, on avait eu la tentative d'attentat à Villejuif, qui a hélas causé la perte d'une femme. En août, c'est le Thalys, et puis le 13 novembre, c'est le 13 novembre, donc c'est l'horreur. quand on est en défense et qu'on se retrouve à défendre à la commission d'office des gens qui sont partis en Syrie ou qui veulent y partir, forcément la question de l'actualité se pose de manière d'autant plus prégnante. Et donc nous avons traversé tous ces moments-là. Et ce sont les peines de ce métier, bon, qui sont aussi ce pourquoi nous le faisons. Mais évidemment qu'à côté de ça, il y a tout le plaisir de partager cette vie à 12, tout le plaisir de la défense, de la défense pénale, de d'élire nos successeurs, des obligations ordinales, des voyages. Tout ça, c'est évidemment une activité passionnante quand vous êtes secrétaire.
Et vous vous êtes installé à votre compte dans la foulée après ?
Alors après, je suis parti chez Clifford Chance. Et je me suis installé à mon compte en 2017.
Donc combien de temps chez Clifford Chance ?
J'y suis resté un an.
Un an ?
Et j'y étais ravi, mais voilà, je me suis installé. Il n'y avait pas non plus beaucoup de boulot pour un pénaliste mid-level, parce qu'on arrivait, c'était le tout début de Sapin 2, donc ce n'était pas forcément évident. Mais une fois qu'on s'est séparés, on est resté en tellement bon terme que voilà, je travaille encore de temps en temps dans des dossiers qu'il m'envoie. Et on se revoit toujours avec autant de plaisir.
Alors, on s'est croisés chez Clifford Chance parce que moi, je suis partie juste avant que vous arriviez. J'ai fait un stage
chez eux. Oui.
Et je suis partie juste avant que vous arriviez. Et donc, j'ai eu des bons souvenirs. Maintenant, l'équipe a beaucoup bougé. On m'a parlé d'histoire avec votre chien qui m'ont fait beaucoup rire. Et il paraît que votre chien, c'était la mascotte. Alors, je suppose que ça a été un peu la mascotte de partout où vous êtes allé.
C'est la mascotte de partout.
Oui, voilà, c'est la mascotte de partout.
C'est la star, hein. Groove, ouais. C'est...
Bon, là, le chien ne réagit pas.
Là, il est fatigué parce qu'il a beaucoup marché ce matin. Mais Groove, c'est évidemment la grosse star de tous les cabinets d'instruction, de toutes les salles d'audience, de tous les cabinets d'avocats. Tout le monde l'aime bien. D'abord, c'est un chien très facile, très, très sympa. C'est un beau chien aussi, apparemment.
Sublime.
Il
étire une patte, oui. Il doit se dire tiens, on parle
voilà.
De moi.
Et on parle de lui, donc là, il commence à se réveiller doucement. Mais nous avons une activité matinale assez chargée, puisqu'il a fallu faire un aller-retour au TGI. Et avant ça, j'étais venu à pied. Donc c'est quand même fatigant, mais donc c'était évidemment la mascotte de chez Clifford Chance, et il allait ma foi à droite à gauche, et il avait ses joujoux qu'on lui donnait.
Oui, on m'a beaucoup parlé des jouets qui traînaient dans les couloirs, de l'aile contentieux.
Il donnait voilà, on lui donnait ses joujoux et il courait après ses joujoux. Donc c'était un phénomène. Hein,
ça vous est arrivé de pas retrouver votre chien à un moment où vous en aviez besoin ?
Quelquefois, oui, j'ai dû aller le chercher dans certains bureaux. J'ai dû aller le chercher quelquefois quand je devais partir au palais. Groove, dépêche-toi, on y va.
Et est-ce qu'il a croisé celui, je ne sais plus, de Jean-Pierre Grandjean ?
Oui, ils se sont croisés. Pas souvent, mais ils se sont croisés. Mais Jean-Pierre a quitté Clifford maintenant.
Il a quitté Clifford. Mais en tout cas, à l'époque, vous étiez...
Mais on était... C'était mon patron.
Ouais. Bon, parenthèse close. Donc, vous partez parce qu'il est temps de s'installer.
Il est temps, ouais. C'est le moment. Il n'y avait pas non plus beaucoup de boulot pour un pénaliste. Voilà.
Et donc, cette installation ?
Alors, cette installation, au début, c'est difficile parce que... il faut rentrer les dossiers. Ça, c'est pas très compliqué, surtout quand vous êtes ancien secrétaire. Mais il faut rentrer les sous. Et ça, c'est plus difficile. Et rentrer les sous, ça implique de facturer, de développer.
Bah alors, je vais vous creuser là-dessus parce que moi, j'ai plein d'auditeurs qui me demandent des informations sur ça. Alors, j'ai décidé de beaucoup plus cuisiner mes invités sur les problématiques liées à l'installation et aux honoraires. Mmh. Alors, comment est-ce que vous avez apprivoisé ce sujet, cette
c'est
contrainte
vrai que, c'est vrai qu'au début, c'est pas facile parce que vous savez pas faire. Et ça, on vous l'apprend pas à l'école. Et votre patron vous l'apprend pas forcément. Vous avez rapidement l'impression que ça se découpe en trois parties, votre semaine de travail. Une partie développement, une partie travail, une partie facturation. Le développement, ça va de rencontrer des clients, aller sur des salons, des forums, rencontrer
Alors vous, c'est qui vos clients ?
Alors moi, c'est qui mes clients? Ce sont des entreprises qui ont besoin de conseils en pénal et ainsi que des particuliers. Et au début, c'est vrai que pour
quel
ouvrir des
de
clients, eh bien, c'est pas forcément le tout venant, mais c'est des gens qui sont poursuivis dans des dossiers ou bien qui ont besoin de conseils en pénal ou en propriété intellectuelle. Mais ce sont des gens qui, souvent, ça passe par Internet et puis par le bouche à oreille aussi.
D'accord. Et donc, parce que est-ce que vous, là, c'est deux types de personnes différentes.
Voilà.
Donc, c'est pas les mêmes.
C'est pas les mêmes méthodes de facturation.
Et c'est pas non plus les mêmes méthodes, parce que vous avez parlé des trois phases, et
ouais.
C'est formidable de parler avec des juristes parce qu'on s'entend toujours sur le plan.
Exactement.
Et donc, approfondissons ce grand 1 sur le développement. Puisque ce n'est pas les mêmes clients, ce n'est pas les mêmes manières de développer.
Alors, effectivement, quand vous développez des particuliers, vous allez plutôt vous orienter vers des plateformes Internet.
Et donc, vous êtes sur quelle plateforme?
Donc, moi,
par
m'étais mis sur CityPro.
Ouais.
Je suis sur monavocat.fr, mais ça ne m'a jamais rapporté un client. CityPro et également Google AdWords.
Ok.
Et Google
et donc,
AdWords,
vous avez
ça
me
rapporte
site...
aussi des entreprises. Donc, j'ai
ah ouais.
un site. Et comme je suis en train de m'associer, je vais fermer ce site et nous sommes en train d'en créer un nouveau.
Ouais.
Et donc, Google AdWords, lui, pour le coup, rapporte aussi des clients, des clients corporate.
Et donc, vous avez.
Ouais.
Et parce que vous avez orienté votre SEO, enfin vos problématiques de votre utilisation des mots, vous l'avez utilisé et Google AdWords, vous l'avez utilisé pour orienter plutôt vers votre activité pénale corporate?
Voilà, pénal des affaires,
ouais,
et,
bien,
exactement.
Très bien.
Et puis, j'ai également toute mon activité, puisque je sais le faire, hein, de tout ce qui est propriété intellectuelle.
Ouais.
Donc, des gens qui viennent me voir pour soit faire des dépôts de marque, soit faire des contrats, soit des contentieux d'affaires.
Et ça, c'est pareil, c'est sur votre communication.
Ça, c'est sur la communication, mais c'est aussi sur le réseau.
D'accord.
C'est sur le réseau et j'ai par exemple un client qui m'est arrivé par mon réseau et c'est un aspect intéressant parce que ça m'arrive par le pénal et ça ressort en droit administratif. Donc, quand je vous disais qu'il fallait avoir un aspect généraliste, ça m'a permis de faire monter sur le dossier un confrère qui partage les locaux avec moi et qui est un publiciste parce qu'on se retrouve avec quelqu'un, avec une entreprise qui est... embêté par la DGCCRF pour des faits de manquement et en fait on leur reproche une pratique commerciale trompeuse totalement bidon et donc on vient vous voir parce qu'on vous parle de pénal, parce qu'on a lu qu'il y avait un risque d'emprisonnement, etc. Et là vous dites non, attendez, ça c'est n'importe quoi. Oui, effectivement, il y a un risque d'emprisonnement, mais c'est pas au pénal qu'il faut aller. Donc on choisit la voie contentieuse administrative avec toutes les spécificités de ce contentieux.
Oui.
Pour le coup, là, je ne maîtrise pas du tout.
Et donc, pour en revenir à la problématique du développement, ça c'est la partie plus site internet.
Donc c'est la partie site internet et forum et articles.
Ouais.
Et salon, etc. Et réseau, et la carte qui tourne, et voilà.
Et c'est une partie de votre métier que vous aimez bien ?
Oui, mais qui n'est pas facile, parce qu'il ne faut pas vous laisser embarquer par cette partie-là. C'est très tentant d'aller vous faire inviter à déjeuner à droite à gauche, mais à un moment, ça ne suffit pas. Et puis, il faut bien voir que c'est pas le tout d'ouvrir les dossiers, c'est qu'après, il faut les faire.
Mmh.
Donc, c'est, je suppose, la question qui venait... C'est faire votre travail.
Oui, alors non, c'était pas particulièrement la question qui venait parce qu'en vrai, on en a déjà pas mal parlé et puis vous avez bien développé le fait que vous aviez vraiment un gros temps de préparation et les outils que vous utilisez. Enfin, vous avez parlé de tout ça. Non, moi, ce qui m'intéresse la plus, ça va être comment vous vous organisez. De manière parce que comme vous avez dit, donc c'est pas tout de faire que du développement, il faut aussi faire son travail. Comment est-ce que vous vous êtes organisé? Est-ce que vous avez vous êtes imposé certaines contraintes en termes de répartition de votre structuration de la semaine?
Alors, de manière générale, le vendredi après-midi, j'essaie de faire mes factures, ce qui permet de bien résumer sa semaine. Et les autres jours, Ça dépend vraiment aussi des urgences. Vous savez, au pénal, le problème, c'est que vous savez à quelle heure vous vous levez, vous ne savez pas l'heure à laquelle vous allez vous coucher. Vous pouvez tout à fait entrer dans des considérations très compliquées d'un seul coup, ou être appelé sur des urgences d'un seul coup. Moi, j'ai quelquefois des comparutions immédiates. Vous êtes appelé le matin même, allô, maître, j'ai mon frère qui passe devant le juge tout à l'heure, est-ce que vous pouvez le défendre? Oui, si vous voulez, oui, bien sûr. On va trouver le temps de le faire, hein, et vous emportez votre ordinateur avec éventuellement un autre dossier à faire en attendant. Donc c'est une structuration de la semaine très mobile, hein, très très mobile.
Et sur la troisième partie, pour le coup, celle de la facturation, et donc encore une fois, de votre rapport à ça, à l'argent, le rapport aux clients, pour se faire payer, etc. Est-ce que vous avez des tips, des choses qui vous ont aidé à avancer sur ce sujet?
Alors d'abord, il faut surtout se faire payer avant de travailler, en partie au moins. Ça, c'est un conseil que je donne à tous mes confrères. Et il faut refacturer régulièrement. Il faut essayer de facturer toutes les semaines, au pire toutes les deux semaines.
Voulez dire
émettre des factures
et des relances, je suppose.
Et évidemment, vous devez relancer toutes les semaines.
Comment on fait une bonne relance? Est-ce que vous avez une formule?
Comment on fait une bonne relance? Il y a plusieurs façons de faire. Ça dépend de votre client. Si vous êtes avec un bon client que vous connaissez bien et qui ne vous a pas payé parce que vous lui passez un petit coup de fil sur son dossier, et à la fin de la conversation, et au fait, je vous ai envoyé une facture l'autre jour, je ne crois pas que vous me l'ayez réglée, il faudrait peut-être qu'on y réfléchisse. Et là, évidemment, oui, bien sûr, maître, je suis désolé, hop, et vous êtes vite réglé. À défaut, vous faites un petit mail très gentil en disant que, sauf erreur, la facture numéro temps, d'un montant de temps, adressé le temps, n'a toujours pas été réglé, je vous serais très reconnaissant de... voilà. Mmh. Bon, et si jamais vraiment vous n'êtes pas payé, bon, ben dans ce cas-là, vous dites à un moment, bon, ben écoutez, cher monsieur, c'est terminé. Enfin,
Vous venez de dire que vous étiez en cours d'association.
Oui, tout à fait.
Alors, parlez-moi de cette nouvelle aventure.
Alors ça, c'est une aventure qui se décide avec deux amis, Antoine Lafont et Maximilien Talbot. Nous allons créer un cabinet.
Est-ce que vous avez déjà le nom de ce cabinet?
Il va s'appeler JLT. Juglar Lafont Talbot, mais à sigle JLT. Il va être lancé au 1er janvier. C'est un cabinet qui va être dédié au droit des affaires et évidemment aussi au droit pénal. Parce que nous avons des compétences assez complémentaires. Je suis le pénaliste de la bande. Antoine Lafont va être, et d'ailleurs parce que c'est ce qu'il est, le spécialiste du contentieux commercial, et Maximilien Talbot, qui est un excellent avocat en droit des sociétés, va avaler toute la partie corporate.
Comment est-ce que vous avez décidé de cette association?
Eh bien, parce que eux-mêmes voulaient se lancer. Ils avaient des velléités de démarrer. Et puis, ils cherchaient des locaux. Et puis, je demandais des conseils. Et comme on se connaît quand même très bien, moi, je leur parlais, voilà, de ce que moi, je vivais. Des joies et des peines de l'installation. C'est-à-dire que les joies, c'est que vous êtes totalement libre. Les peines, c'est que vous ne vous payez pas tous les mois, forcément. Et ils ont tout à fait adhéré à cette idée de liberté et en même temps d'excellence, hein, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas payé un mois qu'il ne faut pas pour autant continuer à faire son travail. Et donc, de fil en aiguille, on en est venu à décider de se mettre ensemble, à trois, de faire ce partage d'expérience, ce partage de clientèle, ce travail aussi de proposer, pas un full service, mais quelque chose d'assez complémentaire à la clientèle. Mmh. Voilà. Donc aujourd'hui, entre le droit des sociétés qui est nécessaire pour vous organiser, le contentieux commercial qui est nécessaire pour vous protéger contre vos clients indélicats ou vos fournisseurs peu scrupuleux, et le droit pénal qui est en train de devenir un droit presque préventif, et qui n'est plus qui est toujours un droit répressif, mais qui acquiert un volet préventif, un volet d'analyse de risque, que vous apprenez aussi beaucoup quand vous êtes dans un cabinet d'audit comme Ernst & Young, eh bien, avec tout ça, ça nous a poussé à nous installer.
Et comment, encore une fois, c'est des questions que me posent beaucoup les auditeurs, donc je me permets de la poser. Comment est-ce que vous avez pensé votre répartition des bénéfices? Alors, quel modèle de rémunération des associés?
Pour l'instant, ça reste confidentiel, ça. Ça, on en parlera après. Mais revenez me voir dans un an, je vous expliquerai.
Bon, en tout cas, vous savez, les auditeurs pourront vous contacter pour en savoir plus dans un an.
Avec plaisir.
Et alors, d'autant plus que vous avez été recommandé par Stéphane Baller pour le podcast,
oui.
Je peux difficilement faire cette interview sans vous interroger sur votre engagement dans le droit comme un H. Point d'exclamation. D'où est partie cette aventure?
Alors, cette aventure, c'est parti un peu par hasard. C'est-à-dire que Stéphane Baller avait repris tout ce qui était handicap chez EY, alors que moi-même, j'y étais plus. Et donc, il me dit, est-ce que tu voudrais
donc
venir...
Donc, il a repris.
Il a repris, oui. Ça existait déjà. C'était pas très poussé, mais ça existait déjà. Il y avait une mission handicap. Hein. Il y avait un référent handicap. Mais lui-même a voulu reprendre et développer ça. Pour des raisons qu'il a certainement dû vous expliquer, c'est-à-dire qu'il avait une étudiante coréenne qui voulait proposer un stage ou même une collaboration, et il se trouve que cette étudiante entre-temps finit tétraplégique et ne pouvant rien lui proposer, il a été assez dégoûté de perdre un talent, ne pouvant rien lui proposer parce qu'il n'avait rien, il n'avait pas les
infrastructures,
Donc il était assez dégoûté de perdre un talent, ce qui l'a conduit à s'impliquer d'abord dans quelque chose au sein d'Ernst & Young, qui était même pas un collectif, hein. Au début c'est Ernst & Young qui invite des étudiants en situation de handicap et qui se pose quelques questions. Et donc il me demande de venir un peu parler de tout ça. Je lui dis que bien évidemment oui, je vais pas dire non à Ernst & Young, chez qui j'ai fait mes premières armes et chez qui ça s'est quand même pas mal passé. Donc je viens et voilà que nous continuons notre petit bonhomme de chemin. Il crée un collectif et c'est lui qui trouve le nom droit comme un H. Il crée un collectif. Et le collectif s'est transformé en association dont il m'a proposé la présidence, et ce que j'ai accepté. Et c'est une association qui a pour ambition de répondre aux besoins des cabinets, des entreprises et des étudiants. C'est-à-dire qu'on essaye d'être à la croisée des chemins. Il ne s'agit pas de revendiquer ou quoi que ce soit, il s'agit de dire qu'aujourd'hui, il y a des talents qui ne sont pas des personnes totalement valides. Bon, et ben, dont acte. Hein. Et qu'est-ce que vous préférez, avoir un bon mais qui a éventuellement un handicap plus ou moins lourd, ou avoir quelqu'un de bien aseptisé, bien dans la norme, mais qui sera tellement aseptisé et tellement dans la norme que peut-être au bout de 5 ans vous en aurez fait le tour. Et qu'il ne voudra pas trop sortir des normes. Il faut voir aussi que quand on fait des études, en étant handicapé, on doit apprendre à évoluer, à s'adapter. Et ça, c'est essentiel pour un conseil juridique. Et même pour un défenseur. Vous devez vous adapter, vous devez être toujours à l'écoute. Et c'est ça, ce que nous apporte le handicap, quelque part. C'est cette faculté d'adaptation. Donc, aujourd'hui, moi, je pense qu'on a vraiment quelque chose à apporter à nos cabinets en recrutant des jeunes en situation de handicap.
Et comment ça se passe? Quelle est la réponse?
La réponse, les cabinets sont assez intéressés par l'idée, même si je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. parce que c'est long, c'est dur. C'est un métier très, très difficile hein, d'expliquer le handicap et que finalement le handicap peut être pallié par des compensations, des aides techniques. On est dans quelquefois, hein, dans deux mondes différents. Le handicap visuel, notamment, vous paraît, vous avez utilisé tout à l'heure le terme de tombeau, hein, c'est quelque chose qui rebute et c'est normal. C'est pour ça qu'on a ce travail de pédagogie à faire. Mais une fois qu'on aura fait ce travail-là, je pense que la société aussi va nous aider à le faire, nous aurons, à mon avis, de très très bons résultats.
Et vous, parce que vous avez dit, une personne qui est en situation de handicap, c'est aussi une personne qui développe d'autres choses. Je ne sais plus les mots exacts que vous avez...
Qui s'adapte.
Qui s'adapte, oui, mais au-delà de l'adaptation, vous, parce que vous avez parlé, voilà, il sera moins aseptisé, on en aura peut-être moins fait le tour rapidement.
Exactement.
Vous avez peut-être utilisé une expression où je l'ai rêvé. En tout cas, moi, ce que j'entends derrière ça, c'est qu'il y a un truc un peu spécial qui se fait. Vous, qu'est-ce que vous avez l'impression que c'est quoi votre truc un peu spécial?
En fait, vous devez avoir une volonté de faire. Pour vous, c'est tellement facile de baisser les bras et de se dire qu'on va toucher 1500 euros par mois net d'impôts. C'est très facile à faire. Et il y en a qui le font. Et ça, c'est terrible. Parce que vous êtes prêt à abandonner toute dignité pour une somme assez modeste, mais qui permet tout de même de vivre. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir une espèce de volonté, de ténacité face au handicap, hein, pour parvenir là où personnellement je suis parvenu, c'est-à-dire traverser des difficultés inhérentes au handicap et inhérentes aux études aussi, parce que tout le monde n'a pas un master de droit, hein, c'est pas quelque chose de très facile, même si c'est pas non plus le diplôme le plus exigeant qui soit, mais traverser tout cela, c'est un travail de longue haleine et il faut y arriver, et donc c'est ça que nous apportons.
Et alors, vous avez parlé de là où vous êtes aujourd'hui. Mmh. Vous avez dit que vous étiez un avocat très épanoui.
Oui.
Quelle est votre source d'inspiration aujourd'hui? Est-ce que vous avez une source d'inspiration?
Alors, d'abord, j'aime beaucoup mon métier. J'aime beaucoup cette profession. Et comme source d'inspiration, vous pensez à des maîtres à penser, vous pensez à des...
Alors vraiment, c'est ce qui vous vient à l'esprit?
Je dirais que oui, alors les sources d'inspiration, c'est celle de quand j'étais adolescent, c'est-à-dire les très grandes voix du barreau, et s'en sont ajoutées d'autres, évidemment, mais ça pour tous les orateurs, à mon sens, Marc Bonan, qui est un homme remarquable. À beaucoup de points de vue, évidemment, ensuite tous ceux qui m'ont précédé à la conférence et qui ont beaucoup marqué. Moi, je pense bien sûr à Jacques Vergès, qui se révoltait contre une certaine forme d'injustice, hein, et même qui était un passionné de la défense, même d'une cause perdue. Voilà, c'est ça mes sources d'inspiration. Et puis sinon la lecture, la musique, tout ça.
Il y a un livre en particulier, un morceau en particulier?
Un morceau, non, je dirais un opéra, à mon avis, qu'il faut avoir écouté plusieurs fois, c'est Don Juan, le Don Juan de Mozart. Un livre en particulier, je pense qu'il faut, avoir lu Notre Vipère de Mauriac, au moins celui-là. Quand je dis au moins, parce que Dieu sait que Mauriac... fournit des exemples d'humanité passionnants. Thérèse Esquerou, bien sûr. Belle amie de Maupassant aussi. Une certaine forme de perversité, de génie du mal qui en sort impuni. qu'il faut savoir comprendre. Parce que le personnage, si mauvais qu'il soit, est tout de même très attachant. Et il réussit.
Vous avez tressailli en parlant du génie du mal dans Bellamy.
Ah, bah parce que vous savez, quand vous affrontez l'antiterrorisme, vous vous rendez compte que le mal existe, vraiment.
C'est fou, vous venez encore de tressailler. Oui,
mais c'est peut-être aussi un petit coup de froid aussi.
D'accord.
Hein, un petit coup de froid. Mais le mal existe. Hein, on ne s'en rend pas forcément compte, même dans des dossiers de pénal de droit commun, parce que la plupart sont des pauvres types. Mais quand vous allez voir ce qui se fait là-bas, et avec quel plaisir on le fait, je peux vous assurer que là, le mal existe. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup marqué à ce moment-là de ma carrière, puisque j'étais encore assez jeune, de tomber sur ces choses-là. C'est inimaginable. Disons que la fiction rejoint la réalité. C'est-à-dire que ce que vous pensez ne voir que dans des films d'horreur ou dans des films d'aventure abracadabrantesques où les méchants finissent toujours par perdre, là, vous le voyez dans la réalité. C'est-à-dire qu'on vous explique, éventuellement photo à l'appui, ce qui se passe là-bas. Et c'est l'horreur.
Ça vous fait quoi, cette horreur ?
Évidemment que l'horreur de l'acte me révulse, hein, me révolte, mais ceux que je défends n'ont pas forcément eu conscience d'abord de cette horreur, et il ne faut pas oublier que ce n'est pas pour autant que nous devons les retrancher de la communauté humaine. Au contraire. Moi, ce qui m'a fasciné, c'était l'inculture crasse de pas mal de gens que j'ai eu à défendre dans ces dossiers-là. Et je ne dis pas qu'ils sont idiots, mais simplement, la plupart n'ont pas ouvert les Trois Mousquetaires quand ils avaient 12 ans. Or, vous avez besoin, pour vous construire, d'avoir des émotions un peu fortes, lire quelque chose ou de vivre quelque chose d'un peu fort, d'un peu puissant, qui va vous tenir en haleine le soir dans votre lit, éventuellement en cachette de papa et maman. Et pour certains, ils n'ont même pas eu ça. Quand vous leur demandez ce qu'ils ont lu, s'ils ont lu Pif Gadget, c'est le bout du monde. Et c'est dramatique. Alors après, ils vous disent qu'ils sont fascinés par tout ce qui se passe en Syrie, l'injustice, etc. Et c'est vrai que c'est un pays très compliqué et que Bachar el-Assad n'est certainement pas le premier parmi les prix de vertu ou parmi les prix de démocratie. Certainement pas. Même, il doit être l'un des pires dictateurs qui soit. Encore qu'il a fait certainement moins de morts que d'autres. Mais on comprend que l'injustice révolte. Mais la tempérance que doit vous donner une approche cultivée de l'actualité, ces gens-là ne l'ont pas.
Et donc vous avez envie de les défendre.
Et c'est pour ça que j'ai envie de les défendre.
Et quelle est votre dernière joie ?
Ma dernière joie, ouais, ça a été de voir la petite fille d'un confrère qui a à peine un mois et que j'ai vu dimanche dernier. Je crois que c'était ma dernière joie.
Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ?
Un costume.
Merci beaucoup, Mathieu.
Et de rien. À mon groove.